On va reprendre aujourd'hui sur ce message qu'on a commencé, qualifié pour la gloire. Et je vous propose de refaire lecture de notre passage de référence dans Ésaïe 60. Ésaïe 60, les versets 1 et 2. Ésaïe 60, 1 et 2. Où il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et c'est vrai que cette parole a une première signification concernant Israël et en particulier Sion, mais par le Saint-Esprit nous comprenons que c'est aussi une
déclaration prophétique qui nous concerne, qui nous intéresse, et la gloire de Dieu se lève sur nous. Et quand je dis nous, c'est nous personnellement et c'est nous aussi Église de Jésus-Christ. Et je vous propose de regarder aussi Ésaïe 40, qui était un petit peu un complément qu'on avait pris en fondement à ce sujet qualifié pour la gloire, en disant mais pourquoi se qualifier ou bien pourquoi se préparer. Ésaïe 40, au verset 3, une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc ici, je vous rappelle, lorsque la bouche de l'Éternel a parlé, c'est qu'il accomplit ce qu'il dit, et il est dit là de préparer le chemin de l'Éternel. Alors là aussi, on a une première réalisation, si vous regardez avec Jean-Baptiste, où il est dit qu'il est comparé à la voix qui crie dans le désert, hein, Jean-Baptiste qui d'ailleurs était dans le désert, qui s'habillait un peu bizarrement, qui avait des habitudes un peu bizarres, et qui criait, qui préparait la voix du Seigneur, en baptisant les gens pour la repentance, mais nous avons aussi aujourd'hui ce message qui nous est adressé en disant « Mais préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez la voie. » Et qu'est-ce qui va se passer au verset 5 ?« La gloire de l'Éternel sera révélée. » Et au même instant, toute chair la verra. Donc là, c'est quelque chose de visible, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc sur le fondement de ces deux passages, on a commencé à voir comment se qualifier ou comment se préparer pour la gloire. Et s'il est vrai que c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui peut nous rendre capables, qui peut nous fortifier, il n'en demeure pas moins que nous avons notre part à jouer et que nous devons nous préparer, nous qualifier ou bien remplir les conditions pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je vous rappelle que Dieu est omniprésent, il est présent toujours et partout. Mais sa présence n'est manifestée ou bien révélée que dans la mesure où elle est accueillie et reçue. Hein? Il y a différentes mesures ou proportions de la manifestation de la gloire de Dieu en fonction des conditions qui sont créées pour ça. Donc on avait commencé à voir plusieurs choses, et notamment Jean 14, 21. Parce que c'est bien d'avoir aussi un passage du Nouveau Testament. Jean 14, 21. Où Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Ou bien une autre traduction, c'est « Je me manifesterai à lui. » On peut également dire « Je me révélerai à lui. » Donc Dieu désire se révéler, mais il ne se révèle pas à n'importe qui. Il se révèle à ceux qu'il aime et qui observent sa parole ou bien qui gardent ses commandements. Donc ça, c'était un premier indice. Un autre indice que nous avions, c'était Jean 11, 40, où Jésus arrive auprès du tombeau de Lazare, qui était déjà mort, qui sentait déjà, et les gens sont là un petit peu dépités. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Jésus va dire, mais à la sœur du mort, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus a commencé à donner des ordres, le mort est sorti du tombeau, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. D'accord? Donc, il y a un autre ingrédient, c'est la foi. Et je vous rappelle, comme je vous l'ai montré, que la foi ne consiste pas seulement à dire « oui, je crois », mais la foi consiste à se préparer, à agir en conséquence de ce que nous croyons. Hein? Si je crois, je me prépare à recevoir ce pourquoi je crois. Si je crois que Dieu me l'a donné, je me mets en position, en condition pour le recevoir. Et j'agis même comme si je l'avais déjà obtenu. Voilà. Je rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on avait ces deux premiers éléments. Et autre chose qu'on avait observé, c'est notamment à travers le livre des Chroniques, que lorsqu'on proclame la bonté de Dieu, ou bien lorsqu'on célèbre Dieu, sa gloire se manifeste. Je vous rappelle que notamment dans 2 Chroniques 5, lorsque le peuple a consacré le temple à l'Éternel, ils ont commencé à jouer des instruments et ils ont commencé à proclamer que l'Éternel est bon, sa miséricorde dure à toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu s'est manifestée. Souvent, c'est sous la forme d'une nuée. Maintenant, on a vu donc proclamer la bonté de Dieu, ou bien lui rendre gloire, amener justement sa gloire ou sa glorieuse présence à se manifester. Et c'est vrai qu'on parle de la gloire. Je vous rappelle que la gloire, c'est la présence agissante de Dieu. Ou bien on peut dire aussi que c'est l'atmosphère céleste. En fait, c'est ce qui dégage de Dieu. Sa gloire, c'est son rayonnement, c'est sa nature, c'est sa puissance qui est à l'œuvre. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on poursuive un petit peu dans ce sujet, qu'on trouve d'autres indices dans la parole sur comment se qualifier pour la gloire de Dieu. Et je vous propose qu'on lise ensemble l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 24. On a un exemple où Jésus s'est justement manifesté ou bien révélé. Et il nous est dit là, Luc 24, on va prendre le verset 15. Donc on a les deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs, en train de marcher, de s'entretenir. Et il nous a dit au verset 15 de Luc 24, « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » Et ensuite, on nous montre de tout ce dont ils parlaient, et puis Jésus va commencer à parler avec eux. Et au verset 32, il est dit, « Puis ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Donc, on voit ici que les deux disciples, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train, c'est vrai, de marcher, mais en marchant, qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre? Qu'est-ce qu'ils faisaient? On vient de le lire. Ils parlaient, et ils parlaient de quoi, d'après vous? Verset 18, ben Jésus leur demande de quoi vous entretenez-vous? Et verset 18, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?»« Quoi leur dit-il ?» Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, etc. » Donc en fait, ils étaient en train de parler de Jésus, ils étaient en train de parler de ce que Jésus avait accompli. Je vous rappelle que à ce passage-là, bon, c'est après la crucifixion, Jésus est mort, enseveli, et les disciples sont en train de faire route, en train de se parler, en train de dire, « Mais tu vois, Jésus a fait telle chose, et tu te rappelles quand il a fait ça, et tu te rappelles le miracle des pains où il a nourri 5000 hommes, et tu te rappelles la fois où cette femme est venue verser du parfum. » Enfin, j'imagine qu'ils sont en train de parler de tout ce que Jésus avait fait. Et qu'est-ce qu'il nous est dit, donc, au verset 15, « Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » Donc, si nous commençons à parler de ce que Dieu a fait, que ce soit à travers l'œuvre de Christ sur la terre ou même dans nos vies, quand vous commencez à parler, hey, « Hé, tu sais pas ce que le Seigneur a fait pour moi ? Hé, la dieunière fois, j'avais tel problème, le Seigneur a pourvu. Et puis, tu sais, j'avais besoin de mobilier chez moi et le Seigneur a pourvu. Et puis ceci, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça ? Jésus s'approche et marche avec vous. Parce que lorsque vous parlez de lui, il aime à être présent avec vous. Donc l'une des manières dont Jésus peut se manifester à nous, ou se faire connaître à nous, ou se révéler, ou bien une des manières d'amener la gloire de Dieu, c'est de commencer à parler des choses de la gloire de Dieu. À commencer à se parler, à dire, « Ouais, mais la dernière fois, tu es dans l'adoration, il y a une présence de Dieu qui était là. » C'était merveilleux. Le Seigneur est vraiment grand, le Seigneur est bon. Et quand vous faites ça, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vient, il fait route avec vous. Et même si les disciples ne l'ont pas tout de suite reconnu, finalement, au verset 32 que nous avons lu, ils se rendent compte que c'était lui. Ils disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous pendant qu'il nous parlait? Donc vous commencez à parler de Dieu, à parler de ce qu'il a fait, et qu'est-ce que lui fait? Il s'approche de vous, il commence à parler avec vous, et tout d'un coup, ça brûle à l'intérieur parce que vous avez reçu une parole de Dieu. Hein? Donc une des manières aussi d'amener la gloire de Dieu, ou de voir la gloire de Dieu manifestée dans notre vie, c'est de parler des choses de Dieu, parler de ce qu'il a fait, parler de sa puissance. Donc arrêtons un peu de parler de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui n'est pas ok. Arrêtez de dire que, ah ouais, mais à l'église, franchement, c'est... Vous savez, ce dont vous parlez, et là, c'est ce que vous attirez dans votre vie. Et il y a des gens... Je vais encore jouer un peu mon réformateur, mais... Vous savez, ces histoires de délivrance, tout ça, il y a des vérités dedans. Mais il y a des gens qui ont pris ça et qui en ont fait des choucroutes et des plats et des machins, et des tartines et tout ce qu'on veut, et qui sont tout le temps en train de parler des démons. Ah, vous savez, le diable, il est comme ça. Et puis, il y a telle catégorie de démons, et puis telle autre, et puis voilà comment ça fonctionne, et puis voilà ce que le diable est en train de faire. Puis, vous savez, il est fort, il est puissant, il est organisé, et on fait des séminaires où on passe notre temps à parler du diable, de comment le diable fait, de comment les démons fonctionnent. Mais si vous parlez du diable et des démons, qui est-ce qui va venir vous parler? Qui est-ce qui va venir se révéler à vous? Le diable et les démons. Eh oui. Mais si vous commencez à parler de Dieu, si vous commencez à parler de Jésus, si vous commencez à parler de la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se manifester parmi vous? La puissance du Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il faut être ignorant au sujet de ce que fait le diable, il fait des choses. Mais ça ne sert strictement à rien. Et j'ai jamais vu Jésus nulle part commencer à décortiquer, à expliquer qui est le diable fait, comment les démons fonctionnent. Ça ne sert à rien. Sinon qu'à attirer les démons à venir se manifester parce que vous êtes en train quasiment de vous adonner à une forme de louange aux démons. Parler du diable et de ce qu'il fait, ben, c'est bien beau, mais ça ne libère pas les gens. Ça ne libère pas les gens. Et il y a trop d'histoires comme ça, des séminaires de délivrance, tout ça, qui pourraient être une bonne chose, mais en fait, les gens, vous ressortez quasiment dans un état pire que celui dans lequel vous êtes entré, parce que vous allez passer des heures et des heures à vous entretenir sur les démons. Et ce qui est important de s'entretenir, ce n'est pas les démons, c'est Jésus et la puissance de Dieu qui vous a rendu libre. Donc c'est bon, la délivrance fait partie du plan de Dieu, c'est merveilleux, tout ça c'est disponible pour nous, mais ce n'est pas ce dont on doit, c'est pas du diable et de ce qu'il fait qu'on doit s'entretenir, c'est de Jésus. Je vous rappelle que nos paroles amènent les choses à l'existence. Si vous lisez Romains 4, où il est rendu témoignage à la foi d'Abraham, il est dit que Abraham ne douta point, mais qu'il crut Dieu qui peut donner la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. On a également Proverbe 18 qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc nos paroles vont amener quelque chose. Quand vous commencez à parler la gloire de Dieu, vous attirez la gloire de Dieu. Quand vous parlez de la bénédiction, vous attirez la bénédiction. Quand on prend du temps pour parler et enseigner sur le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? On attire la puissance du Saint-Esprit et il se manifeste. Quand on prend du temps à parler et enseigner sur l'œuvre de la croix, qu'est-ce qu'on fait? On attire dans nos vies la puissance qui découle de la croix et on vit cette liberté, cette bénédiction, cette grâce de Dieu. Donc passons plus de temps à parler de Dieu, à parler de sa gloire, et nous allons voir sa gloire se manifester. D'accord? Un autre exemple, c'est dans Jean chapitre 20. Et on va prendre le verset 19, où il est dit « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Mais Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et là encore, on voit que les disciples sont assemblés. Alors, là, il n'est pas dit de quoi ils parlent, mais moi, je pense que si c'est les disciples de Jésus et qu'ils sont ensemble cachés quelque part parce qu'ils ont peur des Juifs, c'est qu'ils se cachent de parler de Jésus. Ils sont en train de parler Jésus, ils sont ensemble à se rappeler peut-être de ce que Jésus a fait, de ce qu'ils ont vécu. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus vient. Donc, cet élément que nous avons là, c'est que si nous parlons de Dieu, de sa gloire, de sa puissance, de ce qu'il fait, nous attirons sa gloire à se manifester. Et moi, je prends en témoignage avec certaines personnes, certains amis. En fait, on a commencé à certains moments à parler de la gloire de Dieu, à parler de certaines choses que Dieu faisait. Et c'est vrai qu'on a vu des choses se produire de plus en plus aussi dans nos vies. Et quand vous passez du temps à parler, par exemple, sur la provision de Dieu, vous commencez à vivre ce qu'on appelle la prospérité biblique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vos besoins sont pourvus. Et ce, j'allais dire quasiment automatiquement. Mais ça n'est automatique qu'après un certain temps pendant lequel vous vous préparez pour ça. Et de la même manière que le Seigneur nous permet de parler de sa gloire, de nous qualifier, de nous préparer pour sa gloire, de la même manière, eh bien, un temps viendra où la gloire de Dieu sera notre atmosphère habituelle. Et où dans notre vie et dans nos réunions, ce sera normal, naturel de voir une gloire pesante de Dieu parce qu'on se sera préparé, qualifié, on parle de la gloire de Dieu et que cette gloire vient se manifester.
Un autre élément, c'est honorer Dieu, avoir de l'honneur, du respect pour Dieu et pour sa gloire. Alors on va lire 1 Samuel, chapitre 2, au verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. À la fin du verset, il est dit « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et c'est Dieu qui parle. Alors, on peut se dire « Oui, mais moi, je ne méprise pas Dieu. »
Oui, mais quand tu n'honores pas Dieu tellement, en fait, c'est comme si tu le méprisais. Et qu'est-ce que ça veut dire l'honneur, ou bien qu'est-ce que ça veut dire cette partie que je voudrais appuyer avec vous, c'est de ne pas prendre les choses à la légère. Vous savez, les choses de Dieu, c'est vrai qu'il y a la grâce de Dieu, c'est vrai qu'il y a l'onction, c'est vrai qu'on peut vivre beaucoup de choses, mais il ne faut pas prendre les choses à la légère. Et parfois, c'est comme si on peut observer un petit peu la parole de Dieu, ou la puissance de Dieu, ou sa présence, mais on prend les choses parfois un petit peu à la légère. On vient, on s'amuse, on s'éclate, mais autant qu'il ne faut pas tomber dans une espèce de système religieux où on va être solennel, mais à l'extrême. Mais autant il faut aussi que nous apprenions à respecter ou à honorer Dieu et à honorer les choses de Dieu. Attacher de l'importance ou donner du poids à ce qui concerne les choses de Dieu. Et si nous honorons Dieu et les choses de Dieu, bien Dieu s'engage aussi à nous honorer. Vous savez, des fois on sent qu'il y a un petit peu un manque de respect ou de consécration vis-à-vis des choses de Dieu. Je ne dis pas ça particulièrement pour nous ou pour quelqu'un ici, mais en général, des fois, les gens parle de l'église, des réunions, ou des programmes, même des équipements, des choses dans la maison de Dieu, on est un peu léger avec ces choses-là. Que normalement, on devrait quand même montrer un honneur, un respect pour les choses de Dieu. Si on regarde dans l'Ancien Testament, c'était très sérieux, il y avait des règles très très strictes sur comment on pouvait ou pas se présenter devant Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette liberté de venir à Dieu tel que nous sommes, à cause du sacrifice de Christ, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut venir n'importe comment. Il y a une attitude de cœur que nous devons avoir, et notre désir, ça doit être d'honorer Dieu et d'attacher de l'importance aux choses de Dieu. Donc, c'est pas qu'il faut devenir religieux. Parfois, les gens croient qu'ils sont saints parce qu'ils se tiennent d'une certaine façon, qu'ils parlent d'une certaine façon. C'est pas ça, c'est notre attitude. Nous ayons un cœur qui veut honorer Dieu, qui respecte sa gloire. Vous savez, si vous voulez voir la gloire de Dieu, ben, il faut commencer par lui donner gloire et pas reconnaître que. Il est glorieux, par reconnaître sa sainteté, sa puissance, sa grandeur. Si on est léger, ben, Dieu ne va pas pouvoir manifester sa puissance, sa gloire. Si on vient comme ça, ouais, bon Dieu, Dieu est bon, tout ça, oui d'accord, mais Dieu est bon, mais Dieu est saint, Dieu est grand, Dieu est puissant, et est-ce que nous reconnaissons sa sainteté, sa grandeur? Est-ce que lorsque nous avons affaire aux choses de Dieu, est-ce que nous sommes engagés, sérieux avec ça? Parce qu'on sait que derrière, c'est Dieu lui-même que nous honorons. Et ça, c'est souvent une question qui peut être posée. Parce que des fois, les gens sont sérieux pour être au travail, pour être bien présentable, pour être à l'heure, pour faire bien les choses, pour faire le mieux possible. Des fois, les gens sont sérieux ou honorent leur famille ou leurs amis en se préparant bien, quand ils organisent quelque chose, mais quand il s'agit des choses de l'église, c'est « Ah ben après tout, bon, c'est l'église. » Donc si on arrive en retard, c'est pas grave, c'est juste l'église. Ou bien si on vient comme ça, bon, là on va à l'église parce qu'il faut aller à l'église, mais est-ce que dans notre cœur c'est important? Est-ce qu'on attache de l'importance au fait de venir dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on vient avec un cœur pour honorer Dieu? Ou bien est-ce qu'on vient juste parce que bon, voilà, parce qu'on va rencontrer les frères et sœurs et parce qu'on va chanter un moment? Et après, dans le service aussi, est-ce qu'on sert Dieu juste parce que c'est l'occasion de se faire voir un petit peu? Ou bien est-ce qu'on sert Dieu parce qu'au fond de nous, on veut honorer Dieu? Et quand nous le servons, comment nous le faisons? Est-ce que nous faisons juste ce qu'il faut pour faire plaisir à Dieu ou pour faire plaisir aux frères et sœurs? Ou bien est-ce qu'on va faire le mieux possible? Et vous savez, quelque chose peut ne pas paraître qualitatif pour quelqu'un, mais si dans votre cœur vous faites le mieux possible, c'est ça qui compte pour Dieu. Et ça honore Dieu. Et il peut arriver qu'on entende des prestations extrêmement qualitatives quelque part, mais en fait les gens ne sont pas en train d'honorer Dieu. Ils sont juste en train de faire une prestation. Et là, ben, ça n'a pas de valeur. savez, c'est un petit peu comme cette histoire de la veuve avec ses deux petites pièces d'argent. Et les gros billets n'avaient pas tellement de valeur pour Dieu, non pas qu'il fait des préférences, mais parce que cette femme donnait quelque chose, elle honorait Dieu à travers ce qu'elle faisait. Je crois que c'est bon d'avoir ça à l'esprit et de pouvoir honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous faisons quelque chose, c'est pour l'honorer. Et maintenant, il ne faut pas non plus se dire, oui, bon, moi je ne suis pas très bon, mais comme je veux honorer Dieu, c'est pas grave. Non, si tu veux vraiment honorer Dieu, peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas très bon, mais tu honores Dieu dans ce que tu fais. Mais si tu veux vraiment l'honorer, tu vas aussi chercher à progresser dans ce que tu fais. Et c'est important d'être disposé comme ça, de montrer de l'honneur pour Dieu. De ne pas le maîtriser. Parce que Dieu va honorer ceux qui l'honorent, mais il méprise aussi ceux qui le méprisent. C'est-à-dire que Dieu ne va pas honorer, Dieu ne va pas manifester sa puissance, Dieu ne va pas amener sa gloire quelque part où il n'est pas honoré. Dans sa grâce, parfois il peut agir, il peut intervenir, mais la gloire de Dieu ne va pas être pleinement manifestée quelque part où Dieu n'est pas honoré. C'est important de prendre les choses au sérieux et d'attacher de l'importance. Vous savez, des fois, les gens dans leur maison, ils veulent les plus beaux meubles, ils veulent les meilleurs équipements, ils mettent la clim dans toutes les chambres, ils ont des portes en alu, des barrières en alu, machin. Ils ont tout le mieux possible, les plus belles lampes possibles, des beaux meubles et tout. Et quand à l'église, vous mettez quelque chose qui vaut un peu d'argent, on dit « Oh, il gaspille l'argent de l'église !» Ou bien quand c'est pour l'église, on va donner les vieux trucs dont on n'a pas besoin. Hein? Ou des fois on vient, on dit ouais, je vais faire un don à l'église, mais en fait ce que je donne c'est une vieille table déjà toute bouffée par les termites parce que j'en ai plus besoin. Mais c'est quoi ça? C'est de mépriser Dieu. Je dis pas ça pour nous ici, ça n'a pas été le cas, d'accord? Et tant mieux. Quand nous donnons quelque chose, quand nous regardons à ce qui est l'œuvre de Dieu, quel regard nous avons dessus? Est-ce que nous ne sommes pas parfois méprisants? Je dis pas que ce qui est important c'est des choses de valeur. Ce que je dis c'est quelle valeur nous attachons aux choses de Dieu. Et moi, je prie Dieu et je crois que ça honore Dieu et je crois Dieu pour que petit à petit, le temps passant, nous puissions honorer Dieu et amener la gloire de Dieu et amener les gens à glorifier Dieu lorsqu'ils verront comment est notre église, quels équipements nous avons, qu'est-ce que Dieu fait au milieu de nous, comment Dieu est glorifié. Aussi même à travers les équipements. Je ne dis pas que c'est les équipements qui sont importants, mais n'empêche que Dieu, dans sa maison, veut ce qu'il y a de meilleur. Et si nous voulons honorer Dieu, lorsqu'on honore quelqu'un, on cherche à mettre à sa disposition ce qu'il y a de meilleur. Et vous savez, des fois, je vous dis, les gens, il y a des endroits où on prend vraiment les trucs dont on n'a plus besoin, on prend des vieilles choses, et ce n'est pas comme ça. Si vous honorez Dieu comme ça, mais ne vous attendez pas à ce que la gloire de Dieu se manifeste, hein, puisque Dieu honore ce qu'il honore. Encore une fois, je ne veux pas une histoire de matérialisme. Vous savez, votre meilleur, ça... Quelqu'un d'autre peut trouver ça petit, mais pour vous, ça peut être ce qu'il y a de meilleur, c'est ce à quoi Dieu regarde. Mais je veux dire que arrêtons d'avoir cette espèce de problème là, et voire même de se sentir coupable quand on a des bonnes choses dans la maison de Dieu. Parce que ce qu'il y a de meilleur, ça honore Dieu, et ça inspire aussi les gens à glorifier Dieu. Vous savez, quand vous entrez quelque part et que vous avez des bancs qui sont à moitié craqués et que vous avez un vieux rétroprojecteur qui clignote et que vous avez des micros qui fonctionnent une fois sur six et que vous avez une chaire qui, le prédicateur, est obligé de la tenir comme ça parce que sinon ça va tomber. Ah, ils font peut-être de leur mieux, mais on n'a pas envie de dire gloire à Dieu. Mais en même temps, on ne se donne pas souvent les moyens de faire mieux que ça. Et quand vous entrez quelque part et qu'il y a un bon son qui est bien agréable, que vous avez un grand écran pour lire les chants agréablement, pourquoi pas même en couleur, et que vous avez des instruments de musique qui sonnent bien, que vous avez un beau pupitre comme j'en aimerais bien, en plexiglas transparent avec le logo de l'église gravé dedans, vous avez envie de dire gloire à Dieu, non? En tout cas, moi oui, parce que je sais que toutes ces choses-là, les gens ne les ont pas obtenues par eux-mêmes, ils les ont obtenues, et ils ne les ont pas obtenues pour se donner gloire, ils les ont obtenues pour donner gloire à Dieu. Et je crois que c'est important de rectifier parfois nos mentalités, parce que si on n'honore pas Dieu, même dans ces choses-là, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que Dieu puisse pleinement manifester sa gloire. Encore une fois, je ne dis pas que c'est une histoire de richesse ou quoi, c'est à la hauteur de nos possibilités. Mais quand on a des possibilités de faire mieux et qu'on fait que à moitié, ça s'appelle de la médiocrité. Vous savez, la médiocrité, c'est de ne pas faire aussi bien qu'on est capable de faire. Et moi, je n'ai pas envie qu'on soit médiocre, j'ai envie qu'on fasse le mieux qu'on peut faire. et que Dieu soit honoré à travers ce que nous faisons, et même dans les choses pratiques, techniques ou matérielles. Et que les gens, en arrivant, aient envie de rendre gloire à Dieu. Et plus que ça, que lorsque les gens voient ce que Dieu a fait, ils soient obligés de donner gloire à Dieu, parce que sinon, ce n'est pas possible que des hommes aient pu obtenir ça. C'est Dieu qui a agi. Quand on entrait dans le tabernacle, pour ceux qui avaient le droit d'y entrer, même quand on le voyait de l'extérieur, si vous lisez un petit peu la description du tabernacle, ou même du temple par la suite, mais qu'est-ce que Dieu a demandé? Il a demandé de l'or, il a demandé de l'argent, il a demandé des bois précieux. Dieu n'a pas dit ramassez la boue, mettez un peu d'eau et faites des briques de terre et essayez de faire ce que vous pouvez. Il n'a pas non plus dit de prendre des vieux tissus là, prenez vos vieux vêtements usés pour essayer de bricoler un truc. Non, Dieu demandait des choses précieuses, du fin lin, des tissus précieux, de quoi faire des portes et de quoi faire des tapis, des choses précieuses. Et ensuite Dieu a amené sa gloire, sa puissance dans son temple, parce que ce temple était glorifié Dieu. Je crois que c'est bon pour nous aussi de désirer, non pas pour nous encore une fois, mais pour que Dieu soit glorifié, que nous ayons les meilleures choses possibles à disposition du temple de Dieu et de la maison de Dieu. Et ne vous sentez pas coupable d'avoir de bonnes choses. Et si c'est vrai pour l'église ou la maison de Dieu, c'est même vrai dans votre vie. Vous savez, j'ai un ami qui est serviteur de Dieu et depuis des années, il vit ce qu'on appelle par la foi, c'est clairement dans le ministère. Et récemment, ils ont eu l'occasion d'avoir une très bonne voiture. Et quand on voit ça, et on peut se dire, mais ouais, on peut réfléchir à ce qu'il y a, attends, le gars il vit par la foi, il se paye une Mercedes, mais on ne sait pas comment il l'a eu. Et quand il nous a raconté comment il l'a eu, on a envie de dire gloire à Dieu, parce que c'est Dieu seulement qui peut faire des choses comme ça. Il n'a pas été s'endetter, il n'a pas été faire des malversations dans les dons des gens. Dieu lui a donné une occasion extraordinaire et la faveur de quelqu'un pour obtenir cette voiture-là. C'est parce qu'il fait beaucoup de kilomètres pour servir Dieu. Et quand vous voyez cette voiture-là, il m'a fait ma soeur au volant, mais franchement, vous êtes assis là et vous dites gloire à Dieu. Je ne dis pas encore une fois qu'il faut rechercher des choses luxueuses, mais il ne faut pas empêcher Dieu d'utiliser ces choses-là pour manifester sa gloire et pour attirer la louange des gens. Quand vous avez des bons vêtements, mais c'est bien, gloire à Dieu. C'est pas la peine de dire ah non, il ne faut pas trop. Si, il faut donner gloire à Dieu et donner aux gens l'occasion de glorifier Dieu lorsqu'ils te voient. Avoir un bon boulot. Vous savez que Dieu vous donne des bons emplois, pas des petits trucs comme ça, un bon boulot. Et quand vous avez l'occasion d'une promotion ou même d'avoir un boulot dans lequel vous allez gagner de l'argent, n'ayez pas peur de gagner de l'argent. Quand je dis ça, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est en sachant que si on applique les principes de la parole de Dieu, une partie de l'argent que tu vas gagner, en fait, tu vas pouvoir l'utiliser à ce que Dieu soit glorifié, à ce que le royaume de Dieu avance. Si on est tous des smicards, gloire à Dieu pour le smic et soyez bénis ceux qui sont au smic, mais s'il n'y a que des smicards dans l'église, l'œuvre de Dieu ne va avancer qu'à la mesure d'un smicard. Et je ne mets pas de jugement sur personne. Mais si Dieu nous donne l'occasion d'avoir de bonnes ressources, de bons revenus ou quoi, pour pouvoir amener des ressources dans sa maison, Dieu va être glorifié. Et les gens vont glorifier Dieu parce qu'ils verront qu'on n'est pas juste en train de faire à peu près, on est en train de faire pour le mieux. Et je me souviens que ça remonte déjà quelques années dans une église, c'était en France, et une église qui existait depuis pas mal de temps et qui avait fait beaucoup de choses et qui attendait à pouvoir construire un bâtiment, et Dieu leur a donné l'occasion de construire. Et ils ont construit et leur salle de culte, ils ont fait les sols en marbre, ils ont mis la clim, ils ont mis des trucs super beaux, quoi. Et sans ça, pour autant, l'église, elle est super belle. Et le souvenir que j'ai entendu beaucoup de chrétiens dire ouais, vous rendez compte, cette église-là, ils ont été mettre du marbre, des trucs comme ça, pourquoi faire hein, c'est juste pour montrer qu'ils sont meilleurs que les autres et tout. Non, vous ne savez pas quel est leur cœur. Et peut-être qu'ils ont fait ça, et je crois qu'ils ont fait ça pour honorer Dieu. Et en retour, Dieu va les honorer. Et quand vous entrez dans cette salle, vous avez envie de donner gloire à Dieu parce que c'est une belle église, parce qu'il lui fait bon, c'est agréable. Et c'est pas que tout est dans le matériel, mais n'empêche que Dieu désire se glorifier dans tous les domaines. Il ne faut pas avoir peur de donner gloire à Dieu dans notre vie à travers toutes ces choses-là. Ok, donc montrer de l'honneur et respecter sa gloire. Vous savez, moi j'ai un exemple tout récent, c'est qu'on est en train de se préparer pour la rentrée de notre institut biblique. Et là, j'avais envie, en tout cas, de trouver des bonnes tables qui fassent un peu table salle de classe. Et j'ai regardé un petit peu partout, et les seuls que j'ai vus, c'était vraiment hors de prix. Et j'ai dit non, quand même, il faut être sage. Quand même, je priais pour ça. Et puis, Des fois, on discutait même avec Sophie, on regardait les annonces, tout ça. Et à un moment, c'était un peu. Je n'étais pas toujours d'accord parce que c'était de dire ouais, on peut trouver des tables comme ça et machin. Je dis ouais, mais moi, quelque chose me dérangeait. Je dis oui, c'est vrai, t'as raison, on ne peut pas. Mais dans mon cœur, ça me dérangeait parce que je voulais faire bien, je voulais faire le mieux possible. Je dis mais si on a, je ne sais pas, 6 ou 8 tables, mais qu'elles sont toutes différentes, ça va marcher, mais j'ai envie de mieux. Et je continue à prier Dieu pour ça, et je continue à regarder les annonces. Et quand même, parce que c'est dit, bon, on verra bien. Mais je paye là-dessus, et dans mon cœur, je dis non, je ne veux pas juste mettre des trucs comme ça, je ne veux pas des trucs tout différents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais dans un magasin, pour complètement autre chose, un magasin de meubles. Et quand même, à chaque fois que je faisais un tour, j'allais regarder dans le coin des bureaux pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait s'appliquer. Et j'allais te voir, et bon, il n'y avait toujours rien, ce n'était pas intéressant. Et j'allais sortir du magasin et en moi j'entends me monte à l'étage. Parce qu'en fait il y a un étage et en fait pour moi à l'étage c'était que l'électroménager dans ce magasin-là. Et j'étais déjà en train de partir et finalement j'ai dit bon bah ok, je vais regarder. Et finalement bah, là-haut dans un coin j'ai trouvé ce que je cherchais. En fait ils avaient exactement un modèle de table comme j'aurais voulu et ils avaient soldé ça il y avait plus de 40% de réduction dessus. Qu'ils n'avaient pas les vendre, mais moi j'en avais besoin. Et merci Seigneur, puisqu'on a pu maintenant acheter quelques tables qui sont des tables qui correspondent exactement à ce qu'il nous faut. C'est des tables qui peuvent servir comme une table de formation, une table de classe. Et c'est toutes les mêmes. Et je suis content parce que ça va glorifier Dieu. Et quand je vois même la pièce qu'on est en train de se préparer pour faire ça, où il y a des personnes qui ont travaillé à faire la peinture, tout ça, maintenant, je suis content parce que vous entrez là, ça glorifie Dieu. Il y a un beau contexte agréable, on va avoir des bonnes tables, bientôt je pense que je vais pouvoir acheter des chaises qui vont avec, et on va faire quelque chose de bien. Mais comprenez-moi, on aurait pu très bien faire avec des tables différentes, et avec nos chaises là, on aurait pu très bien faire comme ça, on aurait pu. Mais parce que je désire qu'on puisse avoir et qu'on puisse manifester ensemble, c'est ce qu'on appelle un esprit d'excellence. C'est-à-dire que l'excellence, c'est de vouloir toujours faire le mieux possible. Et c'est quand la parole dit de gloire en gloire, c'est que Dieu s'engage à nous bénir de plus en plus, mais pour être béni de plus en plus, il faut aussi nous engager de plus en plus. Pour être honoré par Dieu, un Samuel qu'on a lu tout à l'heure, il faut l'honorer. Donc plus vous l'honorez, plus vous donnez l'occasion de vous honorer et de vous bénir. Et je sais que lorsqu'on s'attache, c'est des petites choses, mais lorsqu'on s'attache à bien faire et à faire de notre mieux, bien on donne à Dieu l'occasion de venir nous honorer parce qu'il voit que nous cherchons à l'honorer. Et ça, c'est important. Donc, montrer de l'honneur, honorer Dieu et respecter sa gloire aussi. Respecter les choses de Dieu, ne pas mépriser la maison de Dieu. On va prendre Malachie. C'est juste avant le Nouveau Testament. Chapitre 1er, Malachie 1er, verset 6. Donc Dieu est en train de faire un reproche à ses sacrificateurs et il dit, Malachie 1er, verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7, vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur et te recevra-t-il bien ou te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Là, Dieu est en train de reprendre sévèrement ses serviteurs. Et l'une des choses qu'il montre, c'est que vous offrez des bêtes aveugles, boiteuses, malades. Et quand notre offrande est infirme, malade, boiteuse, aveugle, en fait, nous méprisons notre Dieu. Et s'il est vrai que nous n'avons plus à offrir des bêtes, mais notre vie même, c'est un sacrifice pour Dieu. Le temps que nous offrons à Dieu, est-ce que nous prenons le temps où, juste avant de dormir, on est tellement fatigué qu'on arrive à peine à tenir nos yeux ouverts pour lire sa parole, ou est-ce qu'on lui donne un temps de qualité pendant lequel on est réceptif à sa parole? Quand le Seigneur nous conduit et nous inspire à donner quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'on va donner, par exemple, notre vieille chemise usée, où on voit quasiment à travers, dont on n'a plus besoin, parce que Dieu nous a dit de donner quelque chose, Ou est-ce qu'on va prendre le soin d'aller dans un magasin et d'acheter une bonne chemise comme si c'était pour nous-mêmes? Et on peut continuer la liste, hein, c'est juste des exemples. Et vous savez, si nous voulons la gloire de Dieu dans notre vie, si nous voulons nous préparer et nous qualifier pour sa gloire, il faut aussi que nous remettions en place un niveau d'honneur qui est dû à Dieu. C'est vrai qu'il y a la grâce, mais ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi avec Dieu. Et d'ailleurs, il leur fait cette remarque, il dit, mais allez donc offrir ça à votre gouverneur et vous verrez ce qu'il vous dira. Et peut-être une bonne question à se poser des fois quand on fait quelque chose pour Dieu ou lorsqu'on est devant Dieu, c'est est-ce que j'oserais présenter ça à quelqu'un que je considère important? Et qui de plus important que Dieu lui-même? Il y a un pasteur qui donnait ce témoignage et qui disait qu'à une époque de sa vie où il vivait un petit peu, c'était parfois un peu compliqué, mais un jour il y a des gens qui sont venus le voir à l'église et qui ont dit « Oui, pasteur, alors en fait, il y a plein de trucs que j'allais mettre à la poubelle, mais finalement je me suis dit que je pourrais te les donner. » Alors quand on vous dit ça, je ne sais pas si c'est vraiment un compliment. Donc je vaux aussi bien qu'une poubelle, quoi, finalement. Et quelquefois on est comme ça, et c'est malheureux. C'est malheureux. Donc apprenons à évaluer les choses comme il faut et à honorer Dieu, à donner de l'honneur à Dieu et aux choses de Dieu. D'accord? C'est important. Et ce n'est pas une histoire, encore une fois, d'argent ou de rangement ou tout ça, mais c'est une histoire de notre cœur et de l'expression que nous voulons donner à Dieu. Encore une fois, la parole le dit, celui qui m'honore, je l'honorerai. Mais si tu ne l'honores pas, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il puisse t'honorer. Des fois, on est là, ouais, Dieu doit manifester sa puissance, Dieu doit faire ceci, doit faire cela, mais toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? On va prendre encore un Corinthiens 11 et je pense que je vais arrêter avec ça pour aujourd'hui. Je vais être excité. Tu sais, quand le Seigneur, des fois, nous met des trucs un peu durs comme ça, c'est justement qu'il veut nous faire progresser et aller vers des choses meilleures. Donc prenons-le plus comme une bonne nouvelle. 1 Corinthiens 11. Les versets 17 à 22, il est dit « Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu d'eux. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » Donc là, l'apôtre Paul est obligé de reprendre aussi un peu sévèrement les Corinthiens, qui apparemment, lorsqu'ils venaient à l'église, bon, on aurait dit qu'ils venaient avec leur provision et puis qu'ils s'installaient, qu'ils mangeaient. Mais non seulement qu'ils mangeaient, mais qu'il y en a même qui s'enivraient. Et qu'il y avait un désordre parce que certains étaient en train de se nourrir, de se faire du bien peut-être, mais pendant ce temps, il y en a d'autres qui allaient faire. En fait, on faisait n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il va dire? Méprisez-vous l'église de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne devraient pas avoir cours dans l'église, dans la maison qu'on consacre à Dieu. Et vous savez, des fois, les gens vont peut-être trouver que c'est un peu sévère ou vieux jeu, ou je ne sais pas quoi. Et c'est, même si j'ai compris pas mal de choses quand j'ai eu mon fils, mais moi, je garde et je reste convaincu qu'il y a des choses qui ne se font pas dans la maison de Dieu. Et que lorsqu'on est dans un endroit qui est mis à part pour Dieu, qui est sa maison, il y a des choses qui ne se font pas et qu'il faut avoir du respect. Vous savez, vous allez me dire, bah ouais, mais nous, on ne vient pas à s'enivrer dans l'église. Vous savez, les téléphones portables qui sont par-ci, par-là, ça n'a rien à faire dans une église. Je suis sûr que pour ceux qui travaillent quoi, et que vous êtes devant votre patron, vous mettez votre portable au moins sur silencieux. Quand vous êtes en réunion, vous mettez sur silencieux. Quand vous êtes à l'église, ça sonne dans tous les sens. Ce n'est pas le cas ici, merci Seigneur. Mais il y a des choses qu'on voit comme ça. Vous savez, le mot saint, des fois on dit oui, les choses de Dieu doivent être saintes, il faut sanctifier Dieu. Saint, ça veut dire mis à part. Et c'est important de savoir mettre à part pour Dieu les choses. Mais totalement pas à moitié. Réunissons les conditions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas exceptionnels, mais c'est juste un exemple. Je sais que j'ai mis un téléphone. Ça peut être ça, ça peut être qu'on est là à faire des choses. Non, il est important d'accorder l'honneur à la maison de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi quand on est devant la présence de Dieu. Vous allez me dire, ouais, t'es en train de remettre sur nous des obligations et des trucs. Non? C'est vrai qu'on jouit d'une liberté en Christ et tout ça, mais ça n'exclut pas d'honorer Dieu, d'avoir un respect pour lui. Quand on est dans sa présence, on a une certaine tenue, on a une certaine attitude. Pas qu'on est religieux, mais on peut aussi s'asseoir, être à l'aise, tout ça, mais on se... c'est pas abassi sur son banc. Enfin, je sais pas, il y a des choses comme ça. On est devant Dieu, vous comprenez? Je dis, bah bon, il y a des choses comme ça. C'est peut-être des petites choses, mais c'est avec les petites choses qu'on fait la différence. Si vous commencez à honorer Dieu, vous allez voir que Dieu va aussi pouvoir vous honorer. Et que plus nous accordons de valeur et d'importance aux choses de Dieu, à la maison de Dieu, à sa présence, et plus cette présence va venir se manifester. Ok? Donc ne soyez pas abattus par rapport à ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas fait votre petite... je vous ai pas passé un savon. Je vous ai donné des éléments, je vous ai donné des clés. D'accord? Des fois, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc, je préfère vous dire ces choses-là tant qu'on n'a pas de problème. Parce que comme ça, on n'aura pas ces problèmes. Mais surtout, on prépare nos cœurs et on se qualifie pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Donc, résumé d'aujourd'hui, parler de Dieu et parler de sa gloire, puisque lorsqu'on parle de lui, il vient se manifester, se révéler et être avec nous. Et aussi, montrer de l'honneur et du respect pour Dieu et pour les choses de Dieu. D'accord? Et il y aura encore une fois dessus. Hein. Il y a d'autres choses, mais c'est bien qu'on prenne bien le temps de voir tout ça et de poser ces éléments. C'est vraiment important. Je vais vous montrer des exemples pour la prochaine fois, très concrets dans la parole, où on voit qu'il y a du sérieux. Si nous sommes capables d'être sérieux vis-à-vis de Dieu et des choses de Dieu, eh bien on va aussi pouvoir expérimenter la puissance du, si vous voulez dire, du sérieux de Dieu. Dieu manifeste sa présence en fonction du contexte que nous créons et de l'occasion que nous lui donnons de le faire. Donc, travaillons ensemble à nous préparer, à nous qualifier, pour que, d'une part, lorsque les gens nous regardent, ça leur inspire du respect pour Dieu et ça les amène à glorifier Dieu, et aussi que nous-mêmes, nous agissions, nous fonctionnions avec ce souci et ce désir de l'honorer de tout notre cœur. Et alors nous verrons sa gloire. Parce que celui qui est dans Dieu, il est honoré. Il est honoré. Amen. Amen.